On est dimanche, ça ne vous a pas échappé. Et quand on demande aux gens de définir d'un mot le dimanche, il y a deux réponses possibles. Le jour du Seigneur, ça c'est une réponse, on va dire, aujourd'hui très minoritaire, et le jour du repos. Alors, j'ai bien conscience que pour les bons chrétiens, jour du repos et jour du Seigneur, c'est la même chose. C'est, on peut dire, les deux faces d'une même médaille. Moi, je vous avoue que parfois, ce sont deux forces qui tirent dans des sens différents. Le jour du Seigneur ou le jour du repos. Alors, quand la première force tire plus fort que la deuxième, vous me voyez. Quand c'est le contraire, vous me voyez moins. Et aujourd'hui, c'est encore pire, parce que non seulement c'est dimanche, mais en plus c'est le premier jour de mes vacances. Ce qui veut dire qu'il y avait deux forces qui tiraient du mauvais côté, du côté du repos. Et je suis là quand même, parce que j'ai fait un compromis. Bon, d'accord, j'y vais, mais je parle du repos. Alors ça va être mon sujet. Et en fait, je suis très à l'aise avec ce sujet parce que, vous le savez, on le sait tous, la première personne qui a été concernée par le repos dans les textes bibliques, c'est Dieu lui-même. Et dès le début, dans la Genèse, le deuxième verset du deuxième chapitre, c'est quelque chose dont on a tellement l'habitude qu'on n'y prête plus attention, mais ça mérite quand même une attention. Dieu acheva le septième jour le travail qu'il avait fait. Il se reposa le septième jour de tout le travail qu'il faisait. Et même si, encore une fois, ça paraît banal parce que c'est un texte qu'on a lu mille fois, c'est quand même étonnant. Un Dieu qui se repose. Parce que se reposer, ça veut dire qu'on est fatigué, ça veut dire qu'on a tellement travaillé qu'on a besoin de compenser l'activité par un temps où on ne fait plus rien. Et on a du mal à voir Dieu dans cette situation-là. Et si on veut insister lourdement, dans l'Exode au chapitre 31, et au verset 17, Exode chapitre 31, verset 17, c'est encore pire, « Pour toujours, entre les fils d'Israël et moi, il est le signe qu'en six jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, mais que le septième jour, il s'est reposé et il a repris son souffle. » En hébreu. Alors, je ne sais pas ce que ça donne. Hein? Enfin, en hébreu, c'est « il a repris son souffle ». Quand on reprend son souffle, c'est qu'on est essoufflé. Et encore une fois, ça ne colle pas avec le Dieu qu'on connaît, qu'on imagine, parce que tout puissant, infatigable. Et s'il faut citer d'autres textes qui vont dans le sens d'un Dieu infatigable, ben là, on a l'embarras du choix. Vous savez par exemple que dans son défi contre les prêtres de Baal, Élie va se moquer de l'absence de réponse des Baals en disant « mais il est midi, mais peut-être qu'ils dorment, il faut crier plus fort ». Vous savez, il y a un défi qui est lancé, il y a d'un côté tous les prêtres de Baal et de l'autre côté Élie tout seul. Et on va voir qui est Dieu. Et donc, les prêtres font toutes les gesticulations possibles et il ne se passe rien. Et donc, Élie, avec, entre parenthèses, une foi qui force l'admiration, parce que il est clair que celui qui n'aura pas le dernier mot, c'est-à-dire celui ou ceux dont le Dieu ne répondra pas, passeront ou passera un mauvais quart d'heure. C'est d'ailleurs ce qui se passe. Et donc, dans un contexte comme ça, où quand même, moi, j'aurais eu une foi relative, c'est-à-dire, On va voir ce qui va se passer. Bien sûr, on va demander à Dieu d'intervenir, mais lui, il est tellement sûr de lui qu'il les nargue en disant, mais parlez plus fort, parce que là, ils ont dû se coucher tard hier soir, il est midi, ils ne sont pas réveillés. Hein. Et bon, vous savez ce qui se passe, et vous savez aussi quel est le sort qui est réservé à tous ces prêtres, que Élie lui-même va égorger. Mais tout ça pour dire qu'à l'occasion... Eh bien, il dit, votre Dieu à vous, c'est tellement pas un Dieu qu'il dort. Sous-entendu, c'est évidemment pas le cas du mien. Parce que le mien est un vrai Dieu, et qu'un vrai Dieu ne dort pas. Et d'ailleurs, le psaume 121 le dit explicitement. Il ne dort pas, et il ne... Alors, c'est deux fois le même... Enfin, deux verbes synonymes, ce qui en hébreu marque l'insistance... Il ne dort absolument pas, ou il ne sommeille pas, il ne dort pas, ou l'inverse. Le gardien d'Israël. Donc, un Dieu qui, évidemment, parce qu'il est Dieu, ne dort pas, n'a pas besoin de sommeil, on peut supposer qu'il n'aurait pas non plus besoin de repos. Et donc, un Dieu qui, au bout de 6 jours d'efforts, et puis, pardon, mais... d'efforts relatifs, parce qu'il crée, mais en parlant, il se repose. Alors c'est forcément une leçon pour nous. C'est-à-dire que on n'a évidemment pas affaire à un Dieu essoufflé. Et si Dieu nous dit « J'ai repris mon souffle le 7e jour », c'est que le sens, il est pour nous. C'est nous qui risquons l'essoufflement, et pas lui. Et d'ailleurs, l'usage qui va en être fait de cette notion de repos de Dieu, ça va être directement marqué, et on le sait tous, dans les fameux 10 commandements, avec ce commandement qui est très particulier parce qu'il est explicité. J'entends par là, alors... Pardon de laisser parler le juriste que je suis, mais dans une loi, vous avez la loi elle-même et l'exposé des motifs, c'est-à-dire on dit pourquoi on prend cette règle-là. Dans les 10 commandements, il n'y a qu'un seul commandement qui a un exposé des motifs, et c'est celui-là, c'est le repos du 7e jour. On dit sans explication, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc., parce que ça ne mérite pas d'explication particulière, mais on dit tu t'arrêtera un jour sur 7 parce que Dieu en a fait autant. Et c'est justement pour nous qu'il en a fait autant. Alors, c'est dans le chapitre 20 de l'Exode. Chapitre 20, verset 8. Donc, tous les commandements sont égrenés les uns après les autres sans explication particulière, mais celui-là est particulier, que le jour du sabbat, on fasse un mémorial en le tenant pour sacré. Tu travailleras 6 jours faisant tout ton ouvrage, mais le 7e jour, c'est le sabbat du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, pas plus que ton serviteur, ta servante, tes bêtes ou les migrés que tu as dans tes villes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'elles contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a consacré. Tu feras parce que j'ai fait. Nulle part dans les autres commandements est marqué à ce point le statut d'image de Dieu, qui est celui de l'homme. Alors, d'abord, il faut remarquer que c'est explicité parce que ça n'est pas moralement une évidence. J'entends par là que pourquoi y a-t-il un exposé des motifs par rapport à ce commandement-là ? Ben, c'est tout simple et je vais le dire d'une manière un peu singulière, c'est que si je vous dis, là, il est 11h15, mais à 9h, j'étais en train de braquer une banque, ou j'étais en train de violer une petite fille, où j'étais en train de tuer ma belle-mère à coups de couteau, vous allez me dire, faudrait peut-être un petit temps de repentance avant de passer à la suite. C'est gênant. Et je le comprends. Si je vous dis, j'étais au bureau parce que j'avais du travail en retard et je suis venu directement du bureau, moralement, ça ne fera pas le même effet. Parce que il n'y a pas d'évidence morale sur ce commandement-là. Alors, c'est pour ça que ce commandement-là est explicité. Alors, il faut aller dans le fond des choses et se dire que si Dieu nous donne ce modèle de repos hebdomadaire, c'est-à-dire un jour sur sept, alors c'est pour plusieurs raisons, mais une principale. Les raisons qui ne sont pas essentielles, mais qui existent, c'est que, dans l'histoire, ça a eu son importance, Dieu connaît, en tant que créateur, notre fonctionnement mieux que personne. Moi, je peux essayer de deviner à quel rythme je dois faire les vidanges de ma voiture. C'est beaucoup plus prudent de prendre la notice du constructeur, parce que celui qui a construit le machin, il sait mieux tous les combien il faut faire la vidange. C'est pareil pour l'homme. L'homme, au fil de l'histoire, a... Parce que, évidemment, ça pourrait prêter à sourire de dire « je te commande de te reposer ». Il y a beaucoup de gens qui diraient « moi, je n'ai pas besoin qu'on me commande, je sais me reposer tout seul ». C'est pas seulement l'intéressé qui est visé. C'est tous les gens qui sont avec lui, y compris, alors le fils, la fille, c'est entendu, mais aussi ceux qui sont à son service, aussi les animaux, aussi. Et là, c'est important parce que si dans l'histoire, l'homme a laissé même ses esclaves se reposer un jour sur sept, c'est aussi grâce à ça. C'est aussi parce que Dieu connaît le rythme et que il a dit, à une époque où ce n'était pas forcément évident et à une époque où on n'avait pas, pas forcément envie d'appliquer ça, le repos du sommeil n'est pas suffisant pour que l'homme vive harmonieusement. Il faut aussi un repos diurne. Et ça n'a pas toujours, vous le savez, été évident de respecter ça. Et encore aujourd'hui, en tout cas ici, on se pose la question du travail hebdomadaire et puis des rythmes scolaires. Tout ça, c'est lié au fait que celui qui construit, celui qui crée, il sait mieux que personne comment les choses fonctionnent. La deuxième raison, qui n'est pas essentielle non plus, c'est que, et ça on le voit par exemple dans le récit de Néhémie, le fait de dire « pendant une journée sur sept, tu ne feras rien », ça veut dire aussi que tu n'auras pas tout le temps un comportement mercantile, c'est-à-dire un comportement qui t'amène à produire pour vendre, et tu ne viseras pas exclusivement dans ton fonctionnement, dans ton existence, tu ne viseras pas exclusivement l'enrichissement ou la productivité. Et ça, effectivement, les condamnations qui sont faites de la transgression du sabbat, elles sont toujours par rapport à ça. Par exemple, dans Néhémie au chapitre 13, si je le trouve d'ailleurs, Néhémie, parce que je n'ai jamais... Voilà. Néhémie chapitre 13, verset 15... En ces jours-là, je vis en Juda des gens qui foulaient aux pieds dans les pressoirs durant le sabbat, qui rentraient des gerbes et chargeaient ainsi sur des ânes du vin, des raisins, des figues et toutes sortes d'autres fardeaux pour les apporter à Jérusalem pendant le jour du sabbat. Je leur fis des remontrances le jour où ils vendaient leurs denrées. Les Tyriens qui habitaient en ville faisaient venir du poisson et toutes sortes de marchandises qu'ils vendaient pendant le sabbat aux fils de Juda et dans Jérusalem. Je fis des reproches aux notables de Juda et je leur dis « Quelle est cette mauvaise action que vous commettez en profanant le jour du sabbat ?» Ça veut dire très clairement, il y a un temps pour acheter et pour vendre, mais il y a aussi un temps qui ne doit pas être fait pour ça. Et effectivement, ce qui s'est développé, c'est l'idée que on n'est pas toujours et tout le temps dans l'échange quand on est à l'image de Dieu. On doit être aussi dans le repos, c'est-à-dire principalement par rapport à ça, une activité qui ne produit rien et qui surtout ne nous fait pas gagner d'argent, parce que ça ne doit pas être notre but. Alors, vous savez que ça, ce n'est pas un argument essentiel, parce qu'il y a eu deux dérives par rapport à ça. Il y a eu la dérive du judaïsme qu'on voit bien dans le Nouveau Testament, où on reproche à Jésus de guérir des gens le jour du sabbat, ce qui est quand même un comble, si ça, ce n'est pas du don. Le sens de cette prohibition de l'activité le jour du sabbat, c'est « tu ne feras rien de productif au sens de vendable ». Et Jésus qui donne ce qu'il a reçu de Dieu, évidemment gratuitement, on lui dit « ah mais ça non, le jour du sabbat tu ne peux pas bon. ». Pareil pour les épis arrachés, enfin vous savez tout ça. Et puis aussi une autre dérive, j'allais dire de la bonne conscience morale au sens le plus péjoratif du terme, c'est que du coup, il y a des gens au fil de l'histoire, et je ne juge personne parce que peut-être que j'encours aussi le reproche, pendant 6 jours, tout est permis. C'est-à-dire, on peut être un requin de la finance, et puis le 7e jour, on se repose parce qu'on a gagné tellement d'argent pendant la semaine sur le dos des autres qu'il n'y a pas besoin d'un 7e jour pour ajouter aux 6 premiers. C'est évidemment pas ça qui est visé. Mais ça, j'allais dire, ce sont des choses un peu périphériques. J'en viens à l'essentiel de mon propos, parce que j'ai en réalité ça à dire ce matin, même si mon introduction a été un peu longue. Le fait pour Dieu de nous dire 6 jours d'activité, 1 jour de repos, comme moi, comme Dieu, ça veut dire, puisque on vit pendant 7 jours et qu'on est actif que pendant 6, notre identité ne vient pas de notre activité. Notre être, il est au-delà de ce qu'on fait. Et on peut être sans faire, et pas l'inverse. D'ailleurs, à ce Dieu qui se repose le 7e jour pour montrer que ce qu'il est ne se résume pas à ce qu'il fait, et que nous, image de ce Dieu, ce que nous sommes ne se résume pas à ce que nous faisons, quand on va lui demander son nom. Il aurait pu, alors, le dictionnaire d'hébreu est très vaste, sortir un nom qui dérive d'un verbe, d'action, créer, fabriquer, guérir, régner. Effectivement, on aurait pu concevoir. Et vous savez que le nom qu'il va donner, quand Moïse va lui dire, mais s'il me demande comment tu t'appelles, qu'est-ce que je réponds ? Il va donner un nom qui est un dérivé du verbe être. Simplement du verbe être. Je suis. Et je suis pendant 7 jours, même si pendant 6 jours je crée, ce que je suis ne se résume pas à ce que je fais. Même si évidemment l'univers témoigne de ce qu'il est, mais ça ne le résume pas. Effectivement, Paul dira aux Romains, les perfections du Dieu invisible sont visibles depuis la création du monde, parce qu'il suffit de regarder pour voir à quel point c'est beau, c'est varié, c'est impressionnant, imposant. Tout ça, ça témoigne des qualités de Dieu, mais ça ne le résume pas. Il est beaucoup plus que ce qu'il fait, et nous sommes beaucoup plus que ce que nous faisons. Alors ça a l'air théorique comme ça. Ça a l'air théorique comme ça. Mais il y a beaucoup de conséquences très pratiques pour la vie chrétienne. Nous, on est arrivé le 6e jour, et on est arrivé dans la deuxième moitié du 6e jour, puisque la première moitié du 6e jour, il crée les animaux, et en toute fin de course du 6e jour, il crée l'homme. Ce qui veut dire que l'homme, quand il arrive, il y a un soir, un matin, et coup de bol, on passe directement au jour du repos. Autrement dit, l'homme est arrivé dans la création pour le week-end. Mais ça veut dire quoi ? Je peux t'aider à créer ? Non, j'ai fini. Il a fini avant qu'on arrive. On est juste là pour profiter de son repos. Et vous connaissez le texte central qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ». Là, parce qu'effectivement, on a du mal à se mettre dans la peau d'Adam qui arrive le soir du sixième jour et puis qui, le lendemain matin, dit « Je peux t'aider ?» Ben non, c'est dimanche, c'est le jour du repos, il n'y a plus rien à faire, tout est prêt. Tu n'as plus qu'à profiter. Dans le pendant de la création qui est la rédemption, même chose. Je peux t'aider, Seigneur, à me donner le salut ? Réponse, non, tout est accompli. Tu arrives pile au moment où c'est fini. Parce que ça, par contre, on le fait. Est-ce que je peux t'aider à me sauver ? Puis on n'attend pas la réponse. Je vais t'aider à me sauver. Non, c'est fini. Là, on est dans le repos. On est dans le repos de ce qui est acquis. Comme Adam et Ève étaient dans le repos de ce qui était créé, sans avoir la possibilité de créer autre chose. C'était complet. Notre rédemption, elle est complète, elle est accomplie. Et on arrive pile au moment où c'est fait. Alors, ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est tout un mécanisme, parce que la conséquence que Dieu va en tirer pour l'homme, c'est de dire, tu ne peux rien faire pour créer, tu ne peux rien faire pour te constituer en image de Dieu, parce que ça c'est fait, tu es image de Dieu, sans que tu aies eu un ongle à bouger pour que ça se produise. Et tu ne peux rien faire pour ça. Est-ce que ça veut dire que tu ne dois rien faire ? Non. Parce que Dieu va dire à l'homme, tu vas cultiver le jardin et tu vas le garder. Je vous rappelle que le travail, ce n'est pas une conséquence du péché. C'est le travail pénible qui est une conséquence du péché. Parce que bien avant que on mange le fruit de l'arbre défendu, Dieu avait dit, tu vas cultiver le jardin. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'image, le fait d'être l'image de Dieu, Dieu va en tirer des conséquences, non pas sur le plan du devenir, on ne fait pas pour être image de Dieu, ça y est, on fait parce qu'on est image de Dieu. Et parce qu'on est à l'image de Dieu, Dieu a dit à l'homme, tu vas être comme moi, pas tout à fait selon les mêmes modalités, pas par ta parole, mais tu vas être comme moi capable de faire sortir des choses du sol pour te nourrir. Comme moi j'ai fait pousser tous les arbres fruitiers, toi tu vas aussi pouvoir cultiver la terre, c'est-à-dire m'imiter dans la capacité de faire sortir du sol des bonnes choses. Et il va dire à la femme, comme j'ai été capable de fabriquer un homme, toi, tu vas être capable, enfin, vous allez être capable à deux, vous aussi, de reproduire ça. D'où l'idée de procréer par rapport à créer. Et simplement, quand ça va mal tourner, et on voit là qu'on est dans le « on fait parce que » et on ne fait pas pour, on fait parce qu'on est image de Dieu et on ne fait pas pour être image de Dieu, si on avait fait ça pour être image de Dieu, ben, raté, c'est terminé. Donc plus de procréation et plus rien qui sort du sol. Ça aurait été ça la sanction, si on était dans le pour. Et on est dans le parce que. Donc tu es toujours image de Dieu, mais cette image de Dieu, elle est dégradée. Donc ce que tu fais, c'est-à-dire faire sortir des choses du sol ou fabriquer des êtres humains, tu vas continuer de le faire parce que tu es image de Dieu, mais parce que tu as abîmé l'image de Dieu, tu vas le faire dans la douleur. Et les deux sanctions, elles sont là. C'est que tu vas travailler, mais ça va être pénible. Tu vas procréer, mais ça va être douloureux. Eh bien, même chose. Même chose dans la Nouvelle Alliance. on ne fait pas pour, mais on fait parce que. On ne fait pas des choses pour devenir enfant de Dieu. Je vous ai écrit ces choses pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et à ceux qui ont, c'est le prologue de Jean, à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui ont cru en son nom, il a donné la possibilité de devenir des enfants de Dieu. Et Paul ajoutera, et nous le sommes. Nous sommes des gens qui nous adressons à Dieu en disant « Abba ». Ça, c'est fait. Et tout ce que j'ai tendance à faire pour fabriquer ça est illusoire et est un non-sens. Je ne peux rigoureusement rien faire pour devenir un enfant de Dieu. La seule chose que je peux faire, c'est croire qu'il me fait ce cadeau. Mais je fais parce que. Et parce que il m'a élevé à ce statut et parce qu'il m'a fait rentrer le jour où tout est accompli. Et vous connaissez, enfin je vais le lire aussi parce qu'il est important, le texte de la lettre aux Hébreux. Entrer dans le repos de Dieu. Eh bien, parce que dans cette nouvelle création où l'objectif, c'est pas de faire prospérer l'univers, mais c'est de faire prospérer le royaume de Dieu. Alors, pour le royaume de Dieu, parce que j'en suis membre sans rien avoir fait pour le mériter, je vais cultiver, au sens spirituel du terme, et je vais procréer, au sens spirituel du terme aussi. Pour autant que je n'altère pas l'image que je porte. Parce que sinon, ça ne va pas me retrancher de ce statut qui m'est donné en cadeau. Je ne peux pas perdre ce que je n'ai pas conquis. Je ne peux pas être déchu de quelque chose que je n'ai pas mérité. Simplement, je peux l'altérer avec les conséquences qui ne sont pas, encore une fois, le changement de statut, mais qui sont des conséquences d'une douleur pour moi. C'est le proverbe que Paul entend, c'est pour l'animal que c'est douloureux de se rebeller contre ce qui l'aiguillonne. C'est-à-dire que quand on mettait des pics dans le flanc du bœuf pour qu'il aille tout droit, quand il s'écartait, c'est à lui que ça faisait mal, c'est pas à celui qui lui donnait les coups de pic. Quand Dieu me corrige, c'est pas à Dieu que ça fait mal. C'est ça que Paul va comprendre, c'est que quand on s'oppose, quand on va dans la mauvaise direction, c'est pas pour lui que c'est douloureux, c'est pour nous. J'ai oublié de vous dire, mais ça n'a pas une importance considérable, que la tentation de prendre les choses à l'envers, elle est permanente. Et elle est permanente parce que nous vivons dans un environnement qui suggère l'inverse. Et qui suggère l'inverse, le monde, j'allais dire, imite son prince. Vous savez ce que recouvre l'expression « le prince du monde ». Lui, depuis le début, il essaye de nous suggérer le contraire. Si tu fais, tu seras. Si vous faites ça, vous serez comme des dieux. Vous allez acquérir un statut nouveau par la force de ce que vous allez faire. Ce que je vous demande de faire, c'est de manger du fruit dont justement on vous a dit de ne pas manger, de ne pas consommer. Et grâce à ça, vous allez changer de statut. Vous allez vous élever du statut de créature au statut de quasi-créateur, comme des dieux. Et depuis, l'humanité est enfermée là-dedans. Alors, Il est déjà tard, je vais passer brièvement là-dessus, mais dans notre société, dans notre environnement, il y a 1000 exemples. Enfin, c'est effrayant de voir tout ce que le monde, tout ce que les individus sont capables de déployer comme énergie pour faire dans le but d'être reconnu, d'être considéré, d'être quelqu'un dans quelque domaine que ce soit. Mais c'est un moteur phénoménal de l'humanité, sauf que c'est pas le bon. Sauf que c'est pas le bon, parce que quand on n'y arrive pas, eh bien on a le sentiment de ne pas être. Et ça, c'est un mensonge. Et c'est le mensonge de l'origine. Parce que à l'origine, se retrouver comme des dieux, merci, quoi. Il faut voir ce qui les attendait à la sortie. Si c'est ça, être comme un dieu, c'est ce qui s'appelle s'être fait avoir. Et notre environnement tend le même piège à tous nos contemporains, avec à la clé la même déception. Alors, j'avais dit que je lirais ce texte qui est essentiel de l'Épître aux Hébreux. Je voulais le commenter, c'était même mon propos principal, mais comme dirait Luc, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit, mais je vais m'arrêter. Hébreux chapitre 3, verset 7. C'est pourquoi, comme dit l'Esprit Saint, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme au temps de l'exaspération, au jour de la mise à l'épreuve dans le désert, où vos pères... où vos pères me mirent à l'épreuve en cherchant à me sonder, et ils virent... J'ai un peu de mal, là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Où vos pères me mirent à l'épreuve en cherchant à me sonder, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans, c'est pourquoi je me suis emporté contre cette génération, et j'ai dit, toujours leur cœur s'égare, ces gens-là n'ont pas trouvé mes chemins, car j'ai juré dans ma colère, on verra bien s'ils entrent dans mon repos. Et ensuite je passe. Ainsi donc, puisqu'il reste décidé que certains y entrent et que les premiers à avoir reçu la bonne nouvelle n'y entrèrent pas à cause de leur indocilité, il fixe de nouveau un jour aujourd'hui, disant beaucoup plus tard dans le texte de David déjà cité, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. De fait, si Josué leur avait assuré le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Un repos du sabbat reste donc en réserve pour le peuple de Dieu, car celui qui est entré dans son repos s'est mis lui aussi à se reposer de son ouvrage, comme Dieu s'est reposé du sien. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que le même exemple d'indocilité n'entraîne plus personne dans la chute. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que, d'une part, ça établit la comparaison que je viens de faire entre la création et la rédemption avec les mêmes mécanismes, mais c'est surtout que il n'y ait jamais question d'autre critère que celui de la foi. C'est-à-dire, ils ne sont pas entrés dans le repos parce qu'ils n'ont pas cru. Et aujourd'hui, ceux qui ont cru, alors c'est chapitre 3, verset 19,
nous constatons qu'ils ne purent pas entrer, vous entendez, dans le repos, à cause de leur incrédulité. Et, chapitre 4, verset 3, nous qui sommes venus à la foi, nous entrons dans le repos.
Il n'y a pas d'autre critère que celui-là, la foi. Et parce que nous avons la foi, nous sommes entrés dans le repos de Dieu. Dans la nouvelle, au septième jour de cette nouvelle création, nous nous reposons en lui. Et encore une fois, il est important de, peut-être essentiel dans le propos de ce matin, ça se résume à ça, de considérer que nous ne pouvons rien faire pour ça. Nous ne pouvons en rien contribuer à ça. ni pour l'acquérir, ni pour le garder. Nous sommes entrés dans le repos de Dieu. Et la seule chose, la seule activité, puisque il était question de Josué, la seule activité qui nous est... Alors j'ai pris l'image tout à l'heure de la création en disant il faut cultiver et procréer dans cette notion spirituelle, mais dans Josué au chapitre 1er, et ça sera ma conclusion. Ça, c'est pour les gens qui sont entrés dans le repos, c'est-à-dire nous. Souvenez-vous de l'ordre que vous a donné Moïse, le serviteur de Dieu. Le Seigneur, votre Dieu, vous accorde le repos. Il vous donne ce pays. Vos femmes, vos jeunes enfants et vos troupeaux resteront dans ce pays que vous a donné Moïse au-delà du Jourdain. Mais vous tous, les vaillants guerriers, en ordre de bataille, vous passerez devant vos frères et vous les aiderez jusqu'à ce que le Seigneur accorde le repos à vos frères comme à vous et qu'ils possèdent eux aussi le pays que leur donne le Seigneur votre Dieu. Ça, c'est faire parce qu'on est entré dans le repos. Et là, je fais très clairement le lien avec ce qui a été fait hier et dont on nous parlait il y a un instant. Le repos, c'est aussi... comme pour Josué, pour ceux qui se sentent la force de le faire, là, on s'adresse à ceux qui sont qualifiés de vaillants guerriers, mais pour ceux à qui Dieu a donné la force de le faire, c'est aussi, une fois dans le pays du repos, aller chercher les frères qui doivent encore y entrer, aller chercher tous ceux qui n'y sont pas encore et qui doivent y entrer. Mais vous, vaillants guerriers en ordre de bataille, vous passerez devant vos frères et vous les aiderez jusqu'à ce que le Seigneur accorde le repos à vos frères comme à vous et qu'ils possèdent eux aussi le pays que leur donne le Seigneur votre Dieu. La seule activité, encore une fois, pas pour être, mais parce que nous sommes dans le repos de Dieu, c'est de faire entrer dans ce même repos tout ce que Dieu appelle et à prédestiner à y être. Alors, que Dieu nous donne à la fois cette tranquillité de profiter de son repos, encore une fois totalement immérité, un cadeau absolu, une grâce totale, et en même temps, cette envie de faire entrer nos frères qui sont encore dehors.
Merci Yann. 40 minutes. Tu vois, je suis un bon pédagogue. Non, merci beaucoup, blague à part. C'est le temps de la fin du culte. Je crois que nous avons un dernier chant. Hein, nous sommes d'accord. Pendant qu'il s'installe, je voudrais vous lire... quelques derniers versets qui pourraient nous accompagner cette semaine et qui vont dans le sens de ce